Deutsche Welle. Droits et libertés.
Il y a 100 ans exactement, les bolcheviks prenaient le pouvoir en Russie. Cette révolution d'octobre, que l'on célèbre début novembre pour des raisons de divergence de calendrier, a engendré plus tard l'URSS. Cet événement a eu un impact énorme sur l'histoire du XXe siècle. Comment la révolution d'octobre 17 a-t-elle été vue depuis l'Afrique? Et surtout, quelles répercussions a-t-elle eu sur les mouvements indépendantistes? Pour en parler cette semaine avec nous, un historien malien, professeur à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Aboubacar Maïga. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous.
Beaucoup d'historiens s'accordent sur le fait que la révolution proprement dite, comme l'avait décrite les partisans bolcheviques qui vont prendre le pouvoir après, comme étant un soulèvement populaire à Saint-Pétersbourg, n'était pas réellement passé de cette manière. C'était en quelque sorte une prise de pouvoir comme un coup d'État.
Il y avait déjà eu au mois de février 1917 un mouvement, notamment contre le rationnement alimentaire qui avait provoqué aussi la chute du tsar. Et donc au mois d'octobre, les bolcheviks prennent le dessus. Lénine était revenu, lui, au mois d'avril, depuis l'étranger. Et c'est la grande figure de cette révolution d'octobre 1917. Comment est-ce que, à l'époque, en Afrique, on suit ces événements? Est-ce qu'on est au courant? Ou est-ce qu'en fait, cette nouvelle de la révolution d'octobre, elle arrivera bien plus tard et elle inspirera bien plus tard en Afrique?
Toute cette histoire est suivie de très près par les Africains, surtout les Sud-Africains et les Africains de l'Afrique du Nord, surtout en Égypte et en Algérie. Pourquoi en Afrique du Sud? Parce que l'Afrique du Sud vivait presque la même situation où c'était les colons venus de l'Europe qui dirigeaient les peuples autochtones. Et les autochtones aussi voyaient en quelque sorte dans cette révolution une source d'inspiration pour leur lutte. Et on verra plus tard qu'avec les bolcheviques, ces Sud-Africains-là, conduits justement par les mouvements de l'ANC seront soutenus par les soviétiques dans leur lutte contre les partisans de l'apartheid. Au niveau de l'Afrique du Nord, c'est surtout l'Égypte qui était en ce moment colonisée encore par les puissances occidentales. L'Éthiopie aussi la même chose. On sait que l'Éthiopie avait bénéficié d'une aide considérable de la part de la Russie impériale depuis la fin du XIXe siècle. En Égypte aussi, c'est à peu près les mêmes mouvements. Les Égyptiens voulaient se défaire depuis longtemps des joues britanniques.
D'ailleurs, ils font une révolution en 1919 en Égypte.
Voilà, juste deux ans après celle de la Russie. Et on verra après les liens que cela va conduire entre les Égyptiens et les Soviétiques.
À l'époque, la révolution d'octobre de 1917, ça montre un petit peu à des peuples colonisés qui sont obligés aussi d'ailleurs par les puissances coloniales de participer à la Première Guerre mondiale. Vous l'avez dit, elle n'est pas terminée en 1917 et qui vivent aussi cette injustice supplémentaire dans l'armée coloniale. Oui. Ils regardent donc cette révolution avec un œil plein d'espoir, c'est ça, qui montre aux peuples opprimés qu'il est possible de renverser totalement l'ordre social.
C'est en quelque sorte ça, mais à l'intérieur de l'Afrique, surtout dans les pays francophones, l'isophone et autres, l'information ne passe pas comme on pouvait l'espérer. Ce sont surtout ceux qui sont sur les fronts, comme on le dit, les Tirailleurs sénégalais, les Africains qui vont combattre pour la France en Europe, qui vont justement être en contact avec ces genres de formations et manifester justement soit un peu d'espoir ou pour l'acquisition de leur propre indépendance à leur retour dans les pays respectifs.
Parce que du côté russe, en fait, l'Afrique n'est pas une priorité. Par exemple, les bolcheviks n'ont pas, en 1917 ou même après, au moment de la Troisième Internationale, en 1919, n'ont pas l'ambition, par exemple, de coloniser à leur tour ou d'imposer leur mode de fonctionnement de suite à des pays ou à des peuples africains. Cela dit, dès 1920, le Comintern va, sous l'impulsion de Lénine, réfléchir à la façon dont on peut organiser des luttes anticoloniales et en se disant que finalement, ça aussi, cette expression-là de l'exploitation de l'homme par l'homme, elle est un peu similaire à celle que subissent les prolétaires opprimés par des classes sociales bourgeoises. Donc, en fait, il y a une sorte de pensée universaliste qui transpose les luttes de classe sociale européenne ou qu'on connaît en Europe à cette époque aux luttes anticoloniales pour se libérer d'une autre oppression.
Oui, comme vous l'avez dit, la Russie en tant que telle n'a jamais eu des visées impérialistes à l'égard de l'Afrique. Elle était surtout présente dans les pays avec lesquels elle fait frontière. Les dirigeants soviétiques, lorsqu'ils venaient au pouvoir, ne se souciaient que de la gestion de leur pays et de la guerre aussi qui les occupait contre les troupes blanches qui se réclamaient de la monarchie et qui voulaient encore établir l'empire, comme on l'appelle, la famille impériale des Romanov.
Romanov, oui.
Et donc, il a fallu vraiment beaucoup de temps avant que les Soviétiques ne prennent en compte l'enjeu africain, la cause des tiers-mondistes, des pays du tiers-monde, pour pouvoir commencer à défendre leur lutte et à essayer aussi d'étendre la révolution communiste à ces pays-là, non seulement en Afrique, mais aussi en Amérique latine et en Asie aussi. On verra les cas du Vietnam et de la Corée aussi.
Mais ça, effectivement, ça vient donc beaucoup plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, en fait, parce que avant, les bolcheviks espèrent surtout exporter leur révolution en Europe et en Europe de l'Ouest, là où il y a des situations sociales un peu plus similaires, peut-être, à ce qu'ils connaissent en Russie.
Exactement. Et il faudra dire que Lénine et Trotsky ont fait beaucoup de choses, ont émis beaucoup d'idées envers ces pays colonisés à l'époque, les pays de l'Afrique, qu'ils n'ont pas pu justement mettre en pratique en raison justement de la mort de Lénine, 1924, si je ne me trompe pas, et l'éviction aussi de Trotsky du pouvoir par Staline. Et Staline, on les verra, puis soucié de l'industrialisation du pays et la résolution des crises internes et le développement interne de ses relations avec les pays occidentaux, qui est de se préoccuper des pays africains. C'est plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, que les Soviétiques, sous la houlette de Staline, vont commencer à être plus actifs et dynamiques envers ces pays africains.
Et alors cette année, en 2017, est-ce qu'il y a des pays en Afrique dans lesquels on va célébrer cette mémoire où il y a encore un souvenir particulièrement fort ou plus du tout?
La révolution, je ne pense pas que la révolution d'octobre 1917 représente encore grand-chose aux yeux des Africains, il faut dire même aux yeux des Russes, parce qu'en Russie aujourd'hui, il y a un déni des choses qui se sont déroulées
Il y aurait même plutôt une réhabilitation de l'ère stalinienne que de la période Lénine dans la Russie de Vladimir
tout
Poutine.
Tout à fait, parce que beaucoup de gens pensent que la Russie pouvait s'en sortir sans la révolution et que la révolution même a contribué à l'effondrement du système économique, social, même de la Russie.
Et en Afrique, de toute façon, les pays dans lesquels il y avait eu aussi l'instauration de partis uniques qui étaient proches dans les années 60, 70, 80 de l'Union soviétique, c'était des partis communistes ou des penseurs qui finalement étaient plus proches des dirigeants communistes staliniens, khrouchtcheviens, que de Lénine ou de Trotsky, qui étaient déjà largement oubliés en URSS, non?
Tout à fait. En Angola, en Mozambique, au Mali, en Guinée-Conakry, en Algérie et dans beaucoup d'autres pays africains, on a découvert l'Union soviétique, surtout avec l'époque stalinienne. Et l'héritage, en quelque sorte, que Lénine avait laissé avait complètement disparu ou bien était méconnu du grand public ou des intellectuels africains. qui avait commencé justement à voyager en Russie, à aller étudier en Russie à partir des années 50. Et les années 50, c'était encore Staline au pouvoir. Et aujourd'hui, même l'Angola, qui était en quelque sorte le pays le plus communiste, et les Mozambiques ou bien les Zimbabwe en quelque sorte, ne se revendiquent plus encore de ces systèmes.
Ben, un grand, grand merci pour cet entretien.
Oui, merci.
Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Aboubakar Maïga de l'Université de Bamako. Écrivez-nous à français@dw.com. Salut et à la semaine prochaine.
C'est en grève, c'est à l'homme qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai, ou fruit sauvage.
Une plante bien plantée sur ses deux jambes, et qui traîne en liberté où bon lui semble.
C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en rêve. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en œuvre. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre.